Les séminaires du Collège de France.
Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Joël Mouterne, qui dirige la digitalisation des produits et services chez SKF Magnétique Mécatronics à Saint-Marcel, en Normandie, je crois.
Hein. C'est ça.
Donc il a débuté sa carrière chez Areva, puis il a travaillé chez Airbus Hélicoptère à Marignane. Et donc, maintenant, il développe des solutions digitales pour optimiser les processus, rendre la technologie accessible, améliorer les performances des machines. Et dans ce cadre, il coordonne la R&D autour des logiciels, du cloud, la réalité mixte et IA. Et en particulier, il supervise la chaire de recherche Physique Inform Machine Learning, qui est dirigée par Shadi Ignatios, en partenariat avec les arts et métiers de ParisTech. Donc il va nous parler aujourd'hui d'apprentissage automatique informé par la physique pour la modélisation de systèmes dynamiques cas d'un palier magnétique actif axial. Voilà.
Très bien. Donc je vous remercie et je remercie Yvon Médé pour m'avoir invité à faire cette présentation. Comme l'a dit Yvon Médé, je vais parler de scientific machine learning aujourd'hui. Donc appliqué à la modélisation d'un palier magnétique. Donc en fait, on a plusieurs collaborations académiques, dont une qui est assez forte avec les arts et métiers, avec notamment Paco Chinesta, qui est assez connu, on va dire, dans la communauté de la réduction de modèles. Est-ce que ça marche ? Voilà. Donc d'abord, avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, un palier magnétique, je vais l'introduire un petit peu. Donc palier magnétique SKF, donc je fais partie du groupe SKF. SKF, c'est très connu dans le domaine des roulements, système de monitoring, lubrification. Mais on fait aussi des paliers magnétiques. Donc le principe du palier magnétique, c'est de faire tourner une machine tournante, en fait le rotor, plutôt que de le faire tourner dans des roulements, on le fait tourner en lévitation magnétique. Donc c'est ça le principe. Donc ça, ça a beaucoup d'avantages. Et ça a aussi beaucoup d'applications. Donc c'est peut-être pas très très connu, on va dire, du grand public, mais il y a pas mal d'applications dans le marché industriel. Donc typiquement pour des applications de compression d'air, des applications de ce qu'on appelle les chillers, donc de refroidissement, donc très appliquées pour des climatiseurs industriels ou typiquement pour le refroidissement de data centers. Et puis dans le domaine des semi-conducteurs, on a aussi un autre type d'application dans lequel par exemple on peut faire tourner des plaquettes de silicium en environnement très propre via de la lévitation magnétique. Et on a aussi des applications dans le domaine de l'énergie, donc par exemple une application, ce qu'on appelle les bols of gas, la reliquéfaction de gaz pour des méthaniers, donc ça évite de faire des rejets de gaz fortement émetteurs dans l'atmosphère. Donc toutes ces parties-là, on fournit à la fois la partie palier et puis moteur, on développe aussi les moteurs sur des puissances qui ne dépassent pas 1 mégawatt en pratique. Mais par contre, on a aussi des applications avec de beaucoup plus fortes puissances, dans le domaine de l'énergie, typiquement sur tout le cycle du gaz naturel, extraction, transport, stockage. Et par exemple, une application majeure, c'est le fait de mettre des compresseurs plusieurs centaines de mètres sous la mer pour aller extraire plus de gaz dans les poches de réservoirs de gaz. Voilà. Donc on a tout un portefeuille d'applications, il y a pas mal de références. Donc c'est quand même une technologie qui est largement déployée dans l'industrie. Même si ça reste un marché de niche, ça reste une technologie qui est quand même beaucoup utilisée. Je vais vous expliquer très rapidement le principe de la technologie. Donc, en fait, le principe il est assez simple dans l'esprit. À part implémenter, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, vous avez un rotor. Le rotor il est entouré d'électroaimants, pour faire simple, sur un palier radial. Vous avez des capteurs de position. Vous mesurez en temps réel la position du rotor. Et puis, vous avez une électronique de contrôle qui va injecter des tensions dans les électroaimants pour exercer une force d'attraction pour ramener le rotor au centre pour quand il y a une déviation. Donc, c'est une boucle d'asservissement. Typiquement sur une armoire électronique de contrôle énergie, on est sur une fréquence de 14 kHz, donc c'est-à-dire que votre contrôle il doit tourner à 14 kHz, donc c'est quand même rapide. Comme je disais, donc typiquement une machine classique, c'est au moins deux paliers radio et puis un palier axial, parce que vous devez contrôler au moins 5 axes de liberté. Et vous avez une électronique de contrôle dans laquelle vous avez tout ce qui est système d'acquisition, carte de contrôle, électronique de puissance, et tout ça en fait on fait ça en interne, c'est-à-dire qu'on développe les cartes, le soft embarqué, les lois de contrôle, la partie électromécanique on la développe en interne. Alors voilà, et donc aussi les capteurs évidemment, donc les capteurs ils ont besoin d'être très précis pour contrôler précisément la lévitation, donc c'est pareil, on mesure les positions en radial et en axial pour contrôler. Alors là, si je prends l'exemple d'un turbo-expandeur, bon, c'est un cas particulier pour illustrer un petit peu ce qui se passe. Donc vous avez des parties laminées, donc pour les capteurs et puis pour les paliers radio. Donc les laminations, ça sert à éviter les courants de Foucault. Hein. Et puis, vous avez le palier axial, là, qui est au milieu. Donc, lui, en fait, il est massif. Pourquoi ? Parce que c'est des problèmes de contraintes structurelles. D'accord ? Et donc, c'est celui-là qui va particulièrement nous intéresser aujourd'hui, parce que du fait qu'il soit massif, vous allez avoir de la non-linéarité liée à la saturation magnétique et puis des courants de Foucault. Et donc, ça fait un problème de modélisation qui est intéressant. Voilà. Donc, typiquement, les air gaps, hein, on parle de la centaine de microns, quelques centaines de microns, l'ordre de grandeur. Donc, c'est des air gaps qui sont très petits, avec des vitesses périphériques qui sont très élevées. Hein. C'est plusieurs centaines de mètres par seconde, quoi, en dessous de la vitesse du son quand même, on essaye. Mais voilà. Et donc le palier axial, lui, il exerce des forces d'attraction de chaque côté, hein, pour centrer le rotor. Vous avez les paliers radio qui permettent de contrôler, on va dire, de supporter le poids du rotor puis de reprendre les efforts radio. Et puis vous avez à côté de ça les capteurs de position, vous essayez de mettre le plus près possible, hein, pour être justement le plus colocalisé de vos actuateurs. Et puis vous avez aussi des roulements de secours qui permettent de faire atterrir la machine quand vous en avez besoin, ou quand c'est un atterrissage incontrôlé, ce qu'on essaye d'éviter au maximum. Voilà. Donc ça, c'est le principe d'un système sur palier magnétique. Donc cette techno-là, elle a beaucoup d'avantages. Vous pouvez tourner très vite, en fait. Vous n'avez quasiment pas de limite, hein, mis à part le fait que vous ne voulez pas dépasser la vitesse du son. Mais voilà, vous avez très peu de maintenance, il n'y a pas de lubrification. D'un point de vue environnemental, c'est très intéressant. Vous pouvez faire des machines totalement hermétiques. Donc vous n'avez pas besoin de séparer le système où il y a de l'huile, par exemple, du reste, ce qui vous permet de faire des systèmes beaucoup plus compacts. Vous évitez les fuites. Vous avez une très bonne efficacité énergétique, et puis vous avez aussi un monitoring qui est intrinsèque, parce que de toute façon, pour faire votre contrôle, vous êtes obligé de mesurer tout le temps. Donc par nature, vous avez un système dont le monitoring il est intégré, quoi. Voilà. Alors, ok, donc ça c'est la brève introduction sur la partie palier magnétique. Maintenant, je vais vous parler de jumeaux numériques hybrides. Alors, justement, qu'est-ce que c'est qu'un... Alors, avant de rentrer dans le détail sur le jumeau numérique hybride, déjà, qu'est-ce qu'on veut faire et pourquoi ? Donc aujourd'hui, en fait, on a des systèmes qui génèrent beaucoup de données. Donc on sait acquérir des données, hein. Des fois, c'est un challenge, mais globalement, on sait à peu près faire. Par contre, ce qui est difficile, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut faire de l'information et quelle décision on veut prendre avec cette information. Donc aujourd'hui, bon, vous avez énormément de données qui sont générées par les systèmes connectés. Typiquement, un palier magnétique, comme je vous ai présenté, hein, avec deux paliers, un radio, un axial, c'est environ un tera de données à peu près toutes les 3 semaines, compressées. D'accord ? Et vous n'avez pas forcément besoin de toute cette information pour prendre des décisions critiques. Voilà. Si vous voulez traiter toutes ces données dans un cloud, vous voulez transférer toutes ces données, ça vous coûte cher, c'est lent, vous ne savez pas réagir vite. Donc, il y a quand même des décisions qui doivent être prises au moment où vous capturez la donnée. Alors la question, c'est quelle donnée est importante et quand et pourquoi. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on doit traiter, on va dire, directement à côté de la machine en temps réel, et puis qu'est-ce qu'on peut se permettre de traiter a posteriori plus tard. Alors, comme je vous ai dit, je vais vous parler un petit peu du jumeau numérique. Donc déjà, je vais réintroduire ce que c'est qu'un modèle. Alors je pense que ça devrait être simple pour vous, mais quand même, c'est bien de le rappeler pour cadrer la suite. Donc en fait, un modèle, on cherche à décrire l'évolution en fonction du temps d'un état interne d'un système. C'est ce qu'on essaie de faire. Donc on a des entrées qui sont des commandes, des excitations. On essaie d'écrire une dynamique interne. D'accord ? Alors dynamique interne, justement, une des difficultés, c'est que généralement, on peut ne pas savoir l'observer. C'est pas toujours simple de savoir l'observer. Et puis on a des mesures prédites, des choses qu'on prédit ou qu'on mesure, pardon. Donc la prédiction, elle se fait vraiment au niveau de l'état interne du système. Hein. Et c'est là où, et pas forcément sur les signaux observés. Donc c'est là où c'est important. Alors maintenant, un digital twin, c'est quoi ? Est-ce qu'un digital twin, c'est un modèle ? Bah, pas que justement. Un digital twin, c'est une représentation virtuelle du système physique, mais qu'on va pouvoir mettre à jour continuellement avec les données. Donc il y a cette notion de mise à jour des données qu'on va pouvoir utiliser pour prédire, pour monitorer et surtout prendre des décisions. Donc un digital twin, ça va largement au-delà d'un modèle. Alors aujourd'hui, bon, peut-être en termes de vocabulaire, parce qu'on entend parler de digital twin, on entend parler de physical AI, d'IA physique, on entend parler de modèle du monde, world model. Bon, alors moi j'essaie de replanter un peu le décor du digital twin là-dedans. Je me dis que bon, modèle du monde, c'est quoi ? On essaie de prédire un état interne du monde pour pouvoir se projeter et vérifier les conséquences de nos actions. Bon, là c'est ce qu'on veut faire au niveau de notre système physique, basiquement. Bon, et puis l'IA physique ou physical AI. Enfin, moi, comme j'interprète, c'est en fait, je vais mettre des contraintes physiques dans mon modèle du monde. Bon, moi, c'est ce que je vais vous montrer, c'est qu'en fait, on a besoin de mettre des contraintes physiques dans notre modèle pour faire des bonnes prédictions. Donc, au final, ce dont on va parler là, c'est quand même un modèle du monde, mais quelque part, on peut le voir comme un modèle du monde, mais restreint à un insecte physique dans lequel on met des contraintes physiques. Bon, c'est juste pour... parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de vocabulaire qui sont utilisés par les uns et les autres. Donc voilà, ici, le Digital Twin, ce n'est pas que pour faire de la simulation, c'est vraiment pour être mis à jour, prendre des décisions, monitorer. C'est ça qui est important, en fait. Hein? Alors, si j'ai mon système réel, hein, et puis j'ai mon jumeau numérique hybride, bah, globalement, je vais pouvoir mettre des entrées avec des excitations, et puis de mon système, il va me générer des données. Ces données, je vais pouvoir les réutiliser dans mon modèle et je vais pouvoir m'en servir pour refaire du contrôle et donc agir sur mon système. Mais je peux aussi m'en servir pour faire des prédictions ou optimiser. Donc, je peux faire plein de choses avec mon modèle numérique. Et donc, en fait, il y a aussi une seconde notion que je voudrais introduire, c'est quand même le fait que dans mon Digital Twin, j'ai envie de l'introduire dans une boucle fermée. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, je me mets à jour, mais je sers aussi à agir sur le système en fonction de ce que je reçois. Voilà. Donc, et une notion aussi qui est très très importante, c'est la notion de temps réel. C'est qu'on veut, comme je l'ai bien dit au début, on veut vraiment pouvoir prendre des décisions en temps réel. Et donc ça impose des contraintes très fortes en termes de modélisation. Alors ça a beaucoup d'avantages, notamment pour les industriels, enfin comme nous. Bon, déjà le premier, c'est qu'on peut récupérer plein d'informations sur le système, hein, le monitorer, faire du capteur virtuel, s'en servir pour améliorer le design, faire de la validation virtuelle. Donc ça, on peut faire. Mais aussi, on peut prendre des décisions, des actions, comme je disais. Donc ça peut être des décisions de maintenance, la maintenance prédictive, d'optimiser un procédé. Ça peut être, pardon, de faire du modèle prédictif qu'on veut, du contrôle, la planification de trajectoire. Donc ça, c'est très important, parce que surtout dans la lévitation magnétique, le contrôle, c'est une composante qui est fondamentale. Et puis de prendre des décisions en temps réel. Voilà. Donc ces modèles-là, ils ont beaucoup d'avantages. Et donc, un des points clés, c'est que pour faire ça, il faut un modèle qui est fiable. Voilà. Et donc, si on n'a pas un modèle qui est fiable, on ne peut pas prendre des bonnes décisions. Surtout des décisions sur des assets qui sont critiques. Donc ça, c'est très important. Alors, du coup, si vous voulez faire un modèle, comme je disais, qui est fiable, pour prendre des décisions, vous avez des contraintes à respecter. Et notamment, vous devez respecter des contraintes liées à la physique. Bien sûr, si vous avez un modèle qui accumule de l'énergie en permanence, au bout d'un moment, vous allez diverger. Vous avez besoin d'introduire de la connaissance métier dans votre modèle. Vous avez besoin d'agréger des données potentiellement de multiples capteurs qui peuvent être parcimonieuses et qui peuvent être bruitées. Ça, c'est la vraie vie. Vous avez besoin de faire des prédictions dans lesquelles vous maîtrisez les incertitudes. Et vous avez surtout besoin d'un modèle qui vous permette de prendre des décisions qui ont un impact important. Alors aujourd'hui, bon, il y a beaucoup de gens qui parlent d'IA, on parle de large langage modèle, on met des disclaimers comme quoi les résultats de l'IA peuvent être incorrects. Mais si demain, vous avez un jumeau numérique, vous avez un modèle que vous utilisez pour piloter un avion, vous n'avez surtout pas envie d'avoir un disclaimer comme ça. Voilà. Donc, vous voulez quelque chose de robuste et fiable et vous voulez garantir de la stabilité. Voilà. Alors, et du coup, pourquoi on a besoin de faire des modèles hybrides, du coup ? Pourquoi ? Parce que si je prends mon système à palier magnétique dont j'ai parlé tout à l'heure, en fait, j'ai du signal, de l'électromagnétisme, de la mécanique des fluides, de l'électronique de puissance, de la thermique, du soft, de l'électronique, de la mécanique, de la dynamique du rotor. J'ai plein de disciplines. Bon, donc j'ai un système qui finalement est assez complexe à modéliser. Et je peux avoir plusieurs types d'approches. Des approches qui sont plus basées sur la physique, des approches qui sont plus basées sur les données. Donc si je prends des approches qu'on appelle plutôt boîte blanche, plutôt basées sur la physique, bon, je peux avoir une physique qui est très précise, je vais avoir des équations analytiques que je vais chercher à résoudre. Ça va me coûter très cher en temps de calcul. Je ne vais pas tout modéliser. Donc on peut se dire, bah tiens, maintenant je vais prendre des données. Si je prends des données, bah évidemment, j'ai des données modèles qui sont basées sur les données. Je ne sais pas bien interpréter ce que je modélise. Ça me coûte très cher en paramètres, enfin, j'ai beaucoup de paramètres, et puis ça me coûte surtout très cher en données. Et donc j'ai un intermédiaire dans lequel je dis, bah, je combine de la physique avec les données, ça me permet d'être plus efficace et potentiellement de viser le temps réel dont j'ai besoin. Je vais avoir besoin de moins de paramètres et puis de moins de données. C'est ça l'esprit. Donc on cherche un compromis dedans. Donc vous allez voir au cours de ma présentation, on va essayer de se balader un petit peu dans ce compromis. C'est ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est que le compromis, c'est pas un compromis, pardon. Le fait de faire de l'hybride, c'est une nécessité. Hein. C'est obligatoire. Donc, on va essayer de développer des modèles hybrides qui permettent d'apprendre une représentation latente qui est quand même contrainte par la physique. C'est ce qu'on veut faire. Alors, comment ça se déploie ça en pratique ? Bon, bah, je peux imaginer que dans mon offline, donc côté, on va dire plutôt cloud, on va dire, je vais avoir des modèles haute fidélité, éléments finis. Ces modèles-là, je vais pouvoir les réduire et je vais pouvoir entraîner des modèles que je vais pouvoir déployer sur ma cible, on va dire, temps réel. Et puis sur ma cible temps réel edge, donc je vais avoir des capteurs, je vais falloir que je fasse de l'inférence, on va dire, rapide, et là que je prenne des décisions d'action, contrôle. Et puis, je peux avoir un intermédiaire, donc à voir où on le met exactement, mais ça peut par exemple être une gateway qui va être proche, par exemple quasi temps réel, dans laquelle je vais pouvoir faire des mises à jour régulières, par exemple basées sur mes données pour mettre à jour mon modèle. Et puis qui peut peut-être me permettre aussi de faire l'interface avec mon cloud. Donc ça, c'est typiquement un exemple de setup de déploiement. Donc voilà. Alors, en termes de structure, ça donne quoi ? Si j'ai mon asset physique, j'ai mon modèle basé sur la physique haute fidélité. De mon asset physique, je peux faire de la collection de données. De mon modèle haute fidélité, je peux faire un modèle réduit. Donc, je vais en avoir un surrogate, puis de l'autre, je peux faire une correction, on va dire, basée sur mes données. Et je vais dire que ma dynamique, c'est une somme. Alors, ce n'est pas vraiment une somme. Hein, c'est pour ça que le SIL, ce n'est pas une vraie somme. Mais c'est conceptuellement pour expliquer que je vais combiner les deux. Hein, je vais additionner les deux, donc de la physique avec des données. Et justement, ce que je disais, c'est que ce compromis-là, on peut le faire varier largement. C'est-à-dire qu'on peut mettre beaucoup de physique et peu de données. Ou l'inverse, beaucoup de données et peu de physique. Et donc, c'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui, justement, c'est de rebalayer un ensemble de types de modèles qu'on a appliqués notamment à cette modélisation de palier magnétique, qui vont de la pure physique, on va dire, vers en fait plutôt du séquence-to-séquence modèle. Donc là, on a beaucoup plus de données, et dans lequel, justement, plus on va aller vers la droite, en général, plus on va aller vers le temps réel, mais plus on va perdre d'interprétabilité physique, évidemment. Je vais vous présenter d'abord le modèle élément fini parce que c'est un peu la base pour démarrer. Ensuite, on va parler un peu de réduction de modèle. Ensuite, je vais vous présenter une autre méthode de réduction de modèle qui est adaptée, on va dire, à ce problème-là qui est magnétodynamique. Donc, dans lequel on va sortir un petit peu du cadre de la POD, FINDEM ou SSW un peu plus classique, on va dire. Je vais vous proposer comment on enrichit cette méthode, justement. Donc là, on va être capable de reconstruire des champs, on va être pas loin du temps réel, mais on va pas l'atteindre. Avec beaucoup de marge, on va dire. Voilà. Et après, je vais vous proposer des méthodes un peu plus basées sur les neurales ODE, UDE. Et je vais vous faire une ouverture parce qu'il y a un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est les équations différentielles contrôlées, dans lesquelles on essaye de faire des représentations dynamiques très riches du passé pour essayer de retrouver l'état interne. Donc, je vais vous faire une ouverture. J'aurai pas le temps de rentrer trop dans les détails parce que sinon, il me faudrait 2 heures, mais je vais quand même vous faire cette ouverture. Donc, tout ça pour dire que à chaque étape, qu'est-ce qu'on essaie de faire ? On essaie de réduire le temps de calcul, mais on essaie quand même de préserver la physique comme on peut pour assurer la robustesse de nos modèles. Donc c'est ça qu'on va voir. Donc si je passe sur la partie élément fini, je reprends ma machine. Donc sur ma machine, j'ai mon palier magnétique axial. Qu'est-ce que j'ai en entrée ? Ben, j'ai des bobines, donc j'ai des tensions d'entrée, et puis j'ai la position de mon rotor, basiquement. Et puis, ce que j'ai en sortie, c'est que j'ai des courants dans mes bobines, j'ai des flux magnétiques, j'ai des forces, et puis j'ai des champs magnétiques. Donc, principalement, aujourd'hui, on va se focaliser quand même beaucoup sur la partie champ magnétique et puis flux. Bon, voilà. À partir de ça, on peut retrouver beaucoup de choses. Donc, si je reprends mon modèle, en fait, pour faire mon modèle élément fini, je commence par écrire les équations de mon problème. Donc, c'est les équations de Maxwell qu'on écrit avec le potentiel vecteur. Alors là, un point important, comme j'ai dit, j'ai des courants de Foucault, qui crée un effet diffusif dans le matériau. Et puis j'ai des équations de circuit parce que évidemment je mets une tension dans mes bobines, donc il faut que je couple mes équations de circuit avec mes équations de Maxwell. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai mon modèle, on va dire, j'ai mes équations continues. J'ai un terme non linéaire qui est lié à ma sétération de mon matériau que vous voyez ici. Donc un exemple de courbe sur la droite. Donc vous voyez, c'est une non linéarité qui n'est pas forcément non plus extrêmement gentille. Et je vais faire une discrétisation en espace avec la méthode des éléments finis. Donc ça, je vais tomber sur un problème ici. Donc ce qui est intéressant, c'est que l'ordre de grandeur ici, dans notre cas d'application, c'est entre 10 puissance 4 et 10 puissance 5 nœuds. Donc on n'est pas sur des dizaines de millions de degrés de liberté, mais quand même, c'est pas non plus si petit que ça, sachant qu'on a un terme non linéaire. C'est surtout ça qui va nous poser un peu des problèmes. Pour faire le maillage, il y a quand même... vu que le rotor se déplace, il faut quand même faire bouger le maillage, donc c'est-à-dire qu'il faut faire bouger les nœuds. Donc ça, c'est un premier point que je voulais mentionner. Puis le deuxième, c'est aussi que mon terme non linéaire, en fait, il dépend en fait du vecteur d'état dans le matériau. Par contre, comme ma perméabilité magnétique de l'air elle est constante, il n'en dépend pas. Et le second point, c'est que mes courants de Foucault, ils sont vraiment dans le matériau. Donc mon S, là, qui était dans mon équation d'avant, il ne dépend pas de la position. Enfin, c'est juste pour encadrer un peu plus la physique. Donc maintenant que j'ai mes équations, on va dire, discrétisées en espace, il va falloir que je les discrétise en temps. Donc pour faire ça, on fait un Euler implicite. Et puis on retombe sur des équations, donc un système d'équations, on va dire, à discrétiser en temps. Oui, donc c'est ça. Et puis, j'ai quand même mon terme non linéaire, donc c'est-à-dire qu'à chaque pas de temps, il faut que je résolve le problème de mon terme non linéaire. Donc mon terme non linéaire, il est ici. Et donc pour faire ça, on va faire une méthode de Newton-Raphson, quoi. Donc à chaque pas de temps, il va falloir itérer pour résoudre ce système-là. Donc ça, et donc il y a une jacobienne à calculer à chaque fois. Voilà. Donc maintenant, si je repars un peu plus, donc ça, je vous ai présenté un petit peu le cadre, on va dire, de modélisation élément fini. Si, juste pour montrer un petit peu ce que ça donne dans le matériau, donc à gauche vous avez une simulation à gauche vous avez une simulation sans courant de Foucault, à droite vous avez une simulation avec les courants de Foucault. Vous voyez quand même que le champ il évolue quand même différemment entre le avec et le sans courant de Foucault. Donc d'où l'importance de prendre en fait les courants de Foucault dans la modélisation. Et alors, ça, bon, c'est un cas d'école, on va dire, très simple, voilà, avec une montée en tension brutale. Mais en fait, dans la vraie vie, hein, on contrôle les systèmes avec des PWM, des choses comme ça. Donc, vous avez des sauts de tension, on va dire, permanents. Et vous pouvez avoir des transitoires beaucoup plus importants. Et là, il se passe des choses, on va dire, un peu plus intéressantes. Vous allez voir que le champ dans le matériau, il peut prendre des formes totalement, entre guillemets, qui varient fortement, dans un sens comme dans l'autre. Et ça va nous poser quand même quelques difficultés en réduction de modèle. Voilà. Donc c'est ça qu'on va essayer de modéliser, on va dire, en réduction de modèle. Alors, donc je vous ai introduit la partie modèle élément fini. Maintenant, on va faire la réduction de modèle. On va essayer de faire la réduction de modèle. Ça c'est des travaux qu'on a fait avec l'ENSAM en particulier. Je réécris mes équations. On va faire des snapshots du vecteur d'état à partir de mes simulations éléments finis, d'accord ? Et on va pouvoir écrire les équations du modèle dans une base POD. Ok ? Bon, le truc, c'est qu'en faisant ça, je me retrouve quand même avec mon terme non linéaire qui dépend, on va dire, du vecteur d'état en haute dimension. Donc ça, c'est pénible parce qu'en fait, finalement, en termes de temps de calcul, je gagne quasiment rien. En pratique, je gagne rien. Pourquoi ? Parce que j'ai ce terme non linéaire. Donc, il faut réduire le terme non linéaire. Donc on va commencer par une réduction avec une méthode d'EM. Donc ce qu'on va faire pour faire cette méthode d'EM, c'est qu'on va refaire des snapshots. Cette fois-ci, donc on a notre base, on va dire, pour la partie POD hein, qu'on a vu avant. Mais on va faire des snapshots du terme non linéaire. Alors il y a une petite subtilité ici quand même, c'est qu'ici on l'a fait, mais on a même pris des snapshots, on va dire, des itérations du Newton pour l'estimation du résidu. Voilà. Donc ça, une fois que je fais ma base POD, hein, donc ma SVD, je me retrouve avec une base pour mon terme non linéaire. On va choisir un nombre de vecteurs dans la base en fait, qui est basé sur un critère sur les valeurs singulières. Donc en fait, ce qu'on va viser, c'est plutôt une gapi POD parce qu'on va choisir un nombre de points, de points magiques qui vont être différents du nombre de vecteurs de la base. Donc on va faire la sélection des points magiques. Donc sur la sélection des points magiques, je pense qu'on fait des choses assez classiques. Donc on initialise le premier point là, sur le max du premier mode. Et puis après, on rajoute des vecteurs petit à petit. Et à chaque fois, on reprojette le vecteur d'après dans la base qu'on avait avant, on regarde le point où on a le plus d'erreurs, ça nous permet de sélectionner le point magique, et on continue comme ça, et si on va au-delà du nombre de points de vecteurs, on recommence le processus. C'est comme ça qu'on l'a fait. Donc ça nous permet d'avoir une sélection de l'ensemble de nos points, on va dire, pour calculer notre terme non linéaire. Et puis une fois qu'on a ça, en fait, on peut faire une interpolation linéaire, on va dire, du terme non linéaire, à partir en fait du terme non linéaire calculé que sur les points magiques. Donc là, du coup, on réduit drastiquement le nombre de points sur lesquels on va calculer le terme non linéaire. Et ça, on va le faire aussi pour la jacobienne, parce qu'il faut aussi qu'on approxime la jacobienne quand on va faire notre Newton-Raphson. Voilà. Bon, alors ça, on l'a fait pour la jacobienne. Donc là, vous voyez, on a les mêmes matrices, mais en fait, on a fait des choses aussi dans lesquelles on n'a pas forcément les mêmes bases entre la partie terme non linéaire et la partie jacobienne. Donc plutôt une méthode GNAT pour les gens qui connaissent un peu ce genre de méthode. Donc les résultats. Donc là, si par exemple j'ai mon rotor qui est fixe avec une tension qui est variable, globalement sur ce cas-là, ça se passe pas trop mal avec 90 points d'EM et 15 vecteurs dans la base POD. Donc la POD, comme on l'a vu, ça réduit quasiment pas les temps de calcul. Mais par contre, avec l'ADEM, on a un ratio 5. Bon, on est toujours très loin du temps réel qui nous intéresse. Mais c'est intéressant. Ça réduit un petit peu. Maintenant, si je fais varier la position, mais pas la tension, bon, ça se passe pas trop mal quand même. J'ai un petit truc bizarre ici sur le courant, mais ça se passe pas si mal que ça. Et j'ai à peu près toujours le même ordre de grandeur en variation de, en gain de temps de calcul, pardon. Par contre, si je fais varier les deux, donc en rajoutant beaucoup de points magiques et en mettant une base qui est générée avec une partie pour la partie variation de position et de tension, il faut beaucoup de points de magie. On a quelque chose qui commence à un peu moins bien coller sur le courant. Bon. Mais sur le reste, ça va encore à peu près. Donc là, on se dit, c'est pas si mal, on va dire. Mais par contre, déjà, mon temps de calcul, il a commencé à réduire. J'ai pas beaucoup réduit mon temps de calcul, j'ai fait que diviser par deux. Pourquoi ? Parce que j'ai beaucoup de points. Alors là, vous allez me dire, est-ce que je peux pas réduire le nombre de points ? Je vais réduire le nombre de points. Donc là, au début, je refais ma simulation avec moins de points magiques, je passe de 1000 à 900. Je réduis un peu le nombre de points. Et puis, je continue ma simulation, puis au bout d'un moment, j'ai une instabilité qui arrive, et je sais pas pourquoi. Voilà. Donc, et là, je suis sur le même jeu de données de test d'entraînement. Voilà. Donc en fait, ça veut dire quand même qu'on a dans notre cas d'application quelque chose qui est sensible aux hyperparamètres. Voilà, c'est ça qu'on est en train de dire ici. Donc on se dit on va essayer d'autres méthodes. Donc on va essayer l'ECSW, Energy Conserving and Sampling Rate. Voilà. Donc ça c'est Charbel Farhat qui est un peu spécialiste de ce genre de méthode. D'ailleurs qui a eu un petit œil sur ce problème-là. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire des snapshots. Donc toujours pareil comme on a fait dans le cas d'avant. Et on va faire une hyperréduction. Donc l'hyperréduction, pour essayer de l'expliquer en français, on va calculer le terme non linéaire sur un nombre de nœuds qui est bien sélectionné. Et on va dire que le terme non linéaire, c'est une somme pondérée, on va dire, des vecteurs de base associés à ces nœuds pondérés par les valeurs du terme non linéaire. Je ne sais pas si je l'ai bien expliqué en une phrase, mais j'ai essayé. voilà. Donc ça, en fait, l'idée, c'est vraiment de refaire une somme pondérée, on va dire, à partir du terme non linéaire exprimé en quelques nœuds. Et donc, en fait, on a des xi ici qui vont être positifs parce qu'on peut le voir vraiment comme un calcul d'intégrale, en fait, au final. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va entraîner, on va dire, nos poids, donc nos xi, avec un algorithme de moindre carré non négatif, parce qu'on veut garder nos xi positifs. Et en fait, c'est notre critère de tolérance sur l'algorithme qui va nous déterminer notre nombre de points cette fois-ci. Donc c'est plus un nombre de points qui est fixé a priori. Donc c'est une différence quand même majeure par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais après, une fois qu'on a ça, c'est quand même un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire notre interpolation linéaire et on va pouvoir recalculer notre terme non linéaire en fonction du nombre de points, en fonction des points pardon, qu'on aura sélectionnés via cette méthode. Et pareil pour la jacobienne. Ok ? Bon, alors qu'est-ce que ça donne ça sur des données ? Là on reprend notre cas, là on n'avait pas de déplacement, on faisait varier la tension avec nos 90 points, donc là ça marchait plutôt pas trop mal, mais il fallait pas en mettre moins sinon on commençait à avoir des problèmes. Là on met un critère de tolérance à 0,05, il nous sort moins de points. Bon, on s'aperçoit que c'est entre guillemets ça va à peu près, c'est un peu moins bon, alors que si on avait utilisé cette méthode là, ça marchait pas. Voilà. Donc on peut se dire qu'on est un peu meilleur avec cette méthode là. Mais on peut se dire, si je prends un peu plus de points, qu'est-ce qui se passe ? Je réduis un peu ma tolérance. Donc je réduis un peu ma tolérance, et là par exemple j'ai un exemple dans lequel j'ai plus de points, et ça se passe cette fois-ci moins bien. Voilà. Donc tout ça pour dire qu'en fait, encore une fois, je suis sensible aux hyperparamètres. Voilà, c'est un peu ça la conclusion que je voudrais dire sur ce sujet aujourd'hui. Alors, aussi, une autre variante, parce qu'on a essayé plein de variantes sur ce sujet, donc je ne vais pas détailler toutes les variantes ici, mais par exemple, on peut aussi décider de faire les snapshots pour le terme non linéaire en resimulant le système élément fini complet dans la base POD. Donc ça a quand même un énorme inconvénient, c'est qu'il faut simuler deux fois le problème. Donc, et comme le gain de temps de la POD il est quasiment faible, en fait, on augmente quasiment par deux le temps de simulation. Ça permet d'améliorer un peu les résultats, mais on a quand même toujours cette sensibilité. Voilà. Bon, il y a d'autres variantes, ce que je parlais tout à l'heure avec la GNAT sur le fait d'avoir des bases différentes, par exemple pour la jacobienne et puis le terme non linéaire, du clustering dans lequel je peux faire choisir mes vecteurs de base en fonction d'où je suis. Enfin, il y a plein de variantes possibles. Mais globalement, d'un point de vue industriel, nous on s'est dit, quand ça marche plutôt pas trop mal, on a plutôt des bons résultats. Le gain de temps de calcul, il est pas suffisant par rapport à ce qui nous intéresse. Et on n'a pas de garantie de stabilité par rapport à nos cas d'application. Voilà. Donc, on va essayer de regarder un peu d'autres choses. Voilà. Donc là, je vais vous parler de réseaux de coeurs. Alors, les réseaux de coeurs, le principe, c'est quoi? Donc, comme là, on va se réduire à un seul électroaimant pour la suite, pour simplifier un petit peu le discours. Et en fait, comme je vous l'ai dit, il y a des courants de Foucault, et les courants de Foucault, ça crée un effet diffusif, et ça, on va dire que c'est un peu connu dans la littérature qu'on peut modéliser ça, les phénomènes diffusifs par des réseaux de coeurs. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de faire ici. Donc, on va modéliser en fait notre problème par un circuit électrique équivalent. Et donc, on va simuler ce circuit électrique équivalent. Et pour prendre en compte la non-linéarité, on va simplement interpoler nos résistances et nos inductances en fonction du courant qui passe dans la première branche du circuit. Donc, c'est une deuxième approche de réduction de modèle, complètement différente de ce qu'on a vu avant. Et alors, il y a des gens qui ont travaillé là-dessus. Donc, je vais pas détailler ça. Mais il y a des gens qui ont travaillé là-dessus. Et en fait, qui ont montré qu'on pouvait extraire directement les résistances et les inductances du réseau équivalent à partir des matrices éléments finis, avec un algorithme itératif. Et en plus, en faisant ça, on construit des vecteurs de base qui vont permettre de reconstruire le champ en disant que le champ, c'est la somme des courants fois ces vecteurs de base. Donc ça, c'est quand même très fort, c'est très intéressant. Moi je le vois un petit peu intuitivement comme le fait qu'au lieu d'avoir une base dans laquelle j'ai un produit scalaire basé sur l'énergie, mais voilà, c'est un petit peu c'est plus intuitif ce que je suis en train de dire là. Voilà, donc on a cette méthode, c'est bien documenté dans la littérature. Et donc ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va reconstruire donc notre champ à partir de ces courants basé sur notre base qu'on a définie de cette manière-là. Et avec ça, on peut aussi reconstruire la force, voilà, en calculant le tenseur de Maxwell. Alors, qu'est-ce que ça donne comme résultat? Alors, si je prends que la partie linéaire, on voit que bon, j'ai quand même des déviations qui sont relativement importantes. Si je fais l'interpolation, on va dire, en fonction des courants, je suis beaucoup mieux, mais j'ai quand même des zones où j'ai de l'erreur. Et donc, une des questions qu'on va essayer de se poser pour la suite, c'est est-ce que je peux améliorer ça? Alors, comment on va faire ça? Alors, ça, si c'est un autre exemple sur la force, hein, où on voit bien que dans les grands transitoires, par exemple, je peux avoir des erreurs que je n'ai pas envie d'avoir. Voilà. Donc là, on compare évidemment la force élément fini avec notre modèle de coeur. Hein. Alors, si je résume, donc là, j'ai quoi? Donc là, j'ai un modèle réduit qui est assez précis, on va dire, quand je suis en régime linéaire, quand même, pas trop mal, qui est basé sur la physique. Qui a des limitations en régime non linéaire et puis pendant les grands transitoires, qui est très rapide à implémenter parce que j'intègre un circuit électrique, on va dire, très simple, et dans lequel j'ai une stabilité locale qui hérite de la structure physique de mon circuit. Donc il a quand même des propriétés qui sont très intéressantes, ce modèle. Maintenant, comment je fais pour améliorer ce modèle-là? Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire là. Donc en fait, le principe, donc ça c'est un article qu'on a publié il y a peut-être deux, trois ans. Donc là, on reprend un électroaimant. Et ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va essayer de corriger les champs qui sont prédits par notre réseau de coeurs avec une correction basée sur les données. Donc là, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que je pouvais prédire mes champs, donc mon champ, mon potentiel vecteur, à partir de mes vecteurs de base et de mes courants. Et donc, ce que je peux faire, c'est faire des snapshots de ma solution élément fini moins ma solution qui sont prédites par le réseau de coeurs. Et une fois que je calcule ça, je fais mes snapshots, je peux faire une POD là-dessus, donc je fais ma SVD. Et donc, je vais simuler mon réseau de coeurs et je vais ajouter à ça une correction, en fait, qui est... je vais reprendre mes termes de mes vecteurs de base que je vais pondérer par des coefficients alpha k, et ceux-là je vais les produire par un réseau récurrent. Donc c'est ça qu'on va faire. Donc là, dans cet exemple-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit on va prendre un LSTM, un réseau récurrent très classique, on va dire, dans le domaine des réseaux récurrents. On va lui donner pas mal de données en entrée, donc tout ce qu'on sait, entre guillemets, donc nos vecteurs, avec un peu d'histoire, on va dire, et on va essayer de prédire. On va faire une fonction de coût, on va dire quadratique, donc ça c'est ce qui est très classique, hein, de faire des fonctions de coût quadratiques. On va mettre un petit terme de régularisation sur les poids, et en fait on se rend compte qu'en faisant ça, en prenant 120 vecteurs pour exprimer la correction, pour exprimer mon erreur, on va dire, dans ma base POD, ingénieurs du SAC, ils ne sont pas trop mal. Alors sur les champs, ce n'est pas parfait. Bon, attention, parce qu'ici, les échelles ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais on voit déjà que j'ai amélioré, on va dire, par rapport à quand je ne prends pas du tout en compte ma correction. Mais alors par contre, sur le flux, c'est très bon. Donc là, ça veut dire qu'avec cette méthode-là, donc le flux, je vous rappelle, on va intégrer sur la surface le champ. Donc avec cette méthode-là, j'arrive à avoir une grandeur d'intérêt qui est prédite de manière beaucoup plus précise que ce que j'avais avant. Par contre, je ne suis pas tout à fait au temps réel, j'y suis presque, on va dire. Donc ça commence à être pas mal, on va dire. Mais je peux reproduire les champs. Mais par contre, j'ai quand même un modèle qui est relativement lourd pour du temps réel, parce que là, j'ai plus de 300 000 paramètres. J'ai quand même un certain coût, on va dire, computationnel que j'aimerais encore réduire. Et puis aussi, j'ai pas de garantie de stabilité, toujours pas, parce que j'ai mis mon réseau récurrent. Donc ça m'embête aussi pour faire du contrôle. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut faire plus léger, plus rapide et prédire que la quantité d'intérêt finalement, parce que c'est ce que j'ai vraiment besoin pour faire mon contrôle. Donc là, je vais vous parler de équation différentielle neurale ordinaire et puis d'équation différentielle universelle qu'on va essayer d'utiliser pour faire ça. Donc, les équations différentielles ordinaires neurales, qu'est-ce que c'est ? En fait, on reprend l'expression de la dynamique qu'on avait, donc de mon équation d'état, et puis au lieu d'avoir un champ F, on va dire qu'on connaît explicitement, on va le paramétrer par un réseau de neurones. Tout simplement, c'est ça le principe. Et alors, comment on entraîne ça ? Donc, on va faire une fonction de coût, toujours pareil, dans laquelle on va comparer nos trajectoires prédites avec la résolution de notre équation différentielle neuronale. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, en fait, vous vous rendez compte que quand vous voulez calculer les gradients de votre fonction de coût, vous êtes obligé de différencier à travers le solver. Donc ça, il y a plusieurs manières de faire ça. Vous pouvez utiliser la méthode de l'adjoint. Donc c'est une méthode qui est très classique, on va dire, dans ce domaine-là. Mais vous pouvez aussi faire une méthode directe, en fait, en essayant de différencier ça. Alors, c'est plus coûteux en mémoire, mais on va dire c'est plus précis. Voilà. Donc après, ça dépend du compromis que vous voulez avoir. On a essayé les différentes variantes, bref. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails là-dedans, parce que les variantes, suivant les outils, ça peut impacter quand même les résultats. C'est ça que je veux dire. Voilà. Donc il y a quelques subtilités. Il y a même beaucoup de subtilités dans ces méthodes-là, on va dire, pour entraîner ce type de modèle. Et alors, comment je vais définir mon modèle ici ? Donc en fait, aujourd'hui, le problème que j'ai, c'est qu'il me faut une condition initiale. D'accord ? Et comme mon état magnétique, il met pas mal de temps à être atteint, en fait, si je pars toujours à zéro, j'ai un problème parce qu'il me faut des simulations qui sont extrêmement longues avant de pouvoir atteindre certains états magnétiques. Donc je vais pouvoir partir d'états magnétiques avec différents niveaux de saturation. Donc pour faire ça, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de points statiques. Parce que ça simplifie quand même beaucoup les choses pour définir l'état initial. Voilà. Donc on va apprendre l'état initial interne du modèle avec un réseau de neurones à partir d'une condition statique de tension qu'on a injectée au modèle. On va intégrer notre équation, puis on a un décodeur statique qui va prendre l'état interne et qu'on va apprendre aussi, qui va nous prédire la sortie. Et comme on sait que sur ce type de problème, on est quand même plutôt affine en la tension, on va quand même mettre une toute petite structure dans notre modèle. On va lui dire que c'est un premier réseau de neurones plus un second fois la tension. Donc ça, c'est une première approche de modélisation. Et puis on va essayer d'en faire une dans laquelle on a un biais inductif qui est beaucoup plus fort. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va reprendre notre réseau de coères, en fait, qu'on a ici. Et simplement, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va corriger les résistances et les inductances par un réseau de neurones qui dépend de l'état. Voilà. Donc là, en fait, on a mis une structure beaucoup plus forte dans le modèle. Et on va essayer de comparer les deux. Alors, si je reprends du coup les équations de mon circuit électrique, l'équation, la dynamique, elle est là. Bon, c'est pas une équation très très compliquée. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer les résistances et les inductances par des résistances et des inductances corrigées. Et là, il y a une petite subtilité, c'est qu'en fait, pour faire cette correction, on va utiliser une fonction d'activation élue. Alors pourquoi élue ? Parce qu'en fait, elle se comporte entre moins 1 et plus l'infini. Et avec cette forme-là, ça me permet d'avoir des RI, des LI qui sont toujours positifs. Et en fait, on peut démontrer, donc ça, en fait, on a fait un papier là qui va être publié assez rapidement, dans lequel on a écrit la preuve pour montrer que c'est toujours localement stable. parce que vous avez les valeurs propres en fait de votre système. Vous pouvez démontrer que quelles que soient les valeurs de l'État, c'est toujours strictement négatif avec ce type d'approche. Donc là, le gros intérêt de cette approche, c'est que vous avez une structure qui est beaucoup plus informée par la physique et dans laquelle vous avez déjà une garantie de stabilité locale que vous n'avez pas du tout avec la neurale O2. Alors pour entraîner ça, comment on fait ? On a fait deux types de datasets, donc des datasets dans lesquels en fait on part d'une condition initiale statique, on va vers une autre condition initiale statique et dans lequel on met des transitoires. Donc ça c'est plutôt des datasets de basse fréquence. Donc on a pris plein de combinaisons au point de départ, plein de combinaisons au point d'arrivée. Et puis, on a fait ces transitions-là. Bon, là, on en a 961 dans ce cas-là. On n'a pas forcément besoin d'en avoir autant, mais on les a. Là, en fait, on a fait la même chose pour la partie haute fréquence. Donc, on a pris différentes conditions initiales, statiques, toujours. Et puis, on a généré des PRBS. Mais là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des PRBS sur le flux cible. Et donc, on a implémenté un contrôle, on va dire, pour avoir le flux cible. Et ça permettait d'avoir quelque chose de plus représentatif de l'électronique de contrôle du palier magnétique. D'accord ?
PRBS.
Alors PRBS, c'est pseudo random binary séquence. Donc en séquence binaire pseudo aléatoire en français. Hein ? Donc comment on entraîne ça ? Alors pour entraîner ça, on va faire une descente par gradient stochastique en mini batch. Donc on va prendre à chaque itération, on va prendre un batch de signaux basse fréquence, on va prendre un batch de signaux haute fréquence, on va mettre deux termes dans la loss, hein, un qui correspond au mini batch basse fréquence et un qui correspond au mini batch haute fréquence. On va quand même les pondérer, parce que alors, quand on commence à mettre plusieurs termes dans la loss, il y a tout un sujet, c'est comment on fait pour que les contributions respectives, il n'y en a pas une qui prenne le dessus sur l'autre, on va dire. Donc pour ça, on va mettre une petite dynamique sur les pondérations, pour ajuster les pondérations de manière dynamique en fonction de comment évoluent les termes de la loss. Donc on implémente ça, et puis on voit qu'avec notre UDE, là c'est le modèle dans lequel j'ai eu bien du kiff fort, on prédit mieux, on colle parfaitement avec la solution aimant finie. Et si je regarde par exemple sur un signal basse fréquence, toujours mon UDE, mais aussi avec l'ODE, la neurale ODE, pardon, ben là en fait je prédis quand même relativement bien ici, je suis toujours très très bon avec la partie UDE. Bon, là ici, je m'aperçois, je commence à avoir des petites déviations avec la neurale ODE, alors qu'avec l'UDE, je suis parfaitement stable. On va dire que la structure physique, elle apporte tout de suite une meilleure qualité dans la prédiction. Voilà. Donc, si je regarde ça en termes de route, relative route mean square error, donc en français, erreur relative quadratique moyenne, je pense que c'est comme ça qu'on doit le dire. En fait, on s'aperçoit qu'avec l'UDE, j'ai significativement gagné par rapport, on va dire, à mon réseau de cohères, alors que sur la neurale ODE, j'ai perdu en basse fréquence et j'ai très légèrement gagné en fréquence, mais j'ai pas vraiment gagné. Donc, je suis quand même bien meilleur avec l'UDE qui a ma structure physique dans le modèle. Alors ça, on peut l'étendre un petit peu parce que là, en fait, j'étais à position fixe. Donc maintenant, je peux rajouter des positions. Et là, en fait, quand on fait ce type d'approche, on peut se dire si j'ai un peu de sens physique, je peux essayer de l'utiliser. Et donc là, une des propositions, c'était de dire simplement, en fait, si je regarde l'inductance de mon système, entre la position avec mon centré et puis quand je me déplace, en fait, vu que l'inductance, on peut dire qu'elle varie à peu près comme 1 sur Z, j'ai un ratio d'inductance qui devrait varier à peu près comme A sur A plus Z, enfin 1 sur 1 plus 1 sur A, sur A, 1 sur A pardon, Z. Et donc là, par exemple, en traçant un ensemble de points de ratio d'inductance, et en faisant la régression, on se rend compte que ça colle pas trop mal. Donc évidemment, on a des variations, parce que suivant le niveau de courant qu'on injecte, forcément on a des variations, mais on retrouve bien la tendance en fait, qu'on avait prédite ici avec les mains. Pas tout à fait avec le A qu'on imaginait, parce qu'on avait les phénomènes non linéaires et la saturation, mais globalement on retrouve bien la tendance. Et donc là, ce qu'on dit, c'est que l'inductance qu'on avait tout à l'heure, qu'on avait corrigée comme ça avec un réseau de neurones, on va la recorriger avec une structure qui reprend cette forme-là pour prendre en compte la position. Voilà. Et donc ça, on l'a entraîné et ça se passe très bien en fait. Donc ça permet on dégrade très peu les résultats par rapport à quand on ne prenait pas en compte la position. Et puis l'erreur qu'on avait sans prendre en compte la position, elle était là, moyenne. Là, ici, on a largement réduit l'erreur en prenant en compte la position avec ce type d'approche. Donc là, en fait, ce qu'on est encore en train de voir, c'est qu'en mettant un petit peu de sens physique dans le modèle et en mettant un peu de structure sur la manière dont on met nos réseaux de neurones, tout de suite, en fait, on est bien meilleur sur la qualité de prédiction et ça converge beaucoup mieux. Voilà. Donc dans ce cas-là, on a entraîné le troisième réseau après avoir entraîné les deux premiers. Voilà, bon, c'était une stratégie. Donc tout ça pour dire qu'au final, dans les résultats, donc en prenant ça sur un PC standard, avec un CPU standard, implémenté sous JAX. Donc JAX, c'est un framework qui est extrêmement performant pour faire ce genre de choses, hein. Surtout pour la rapidité. On arrive à avoir des temps de calcul pour inférer un signal de 2,5 secondes qui sont de moins de 0,2 secondes. Donc c'est-à-dire qu'en moyenne, par pas de temps, on a moins de 6 microsecondes. Donc c'est très bon. Voilà. Donc on arrive au temps réel, en fait, sur un PC standard avec de la marge. Voilà. Donc ça, c'est une approche qui est extrêmement intéressante en pratique pour ce qu'on veut faire. Alors, donc, du coup, si je résume, donc avec les neurales ODE, j'ai quand même une précision qui est quand même pas affreuse. Hein, vous avez vu, c'est pas parfait, mais c'est pas trop mal. Par contre, avec les UDE, j'ai une précision qui est très très bonne. Et j'ai aussi une garantie de stabilité locale. Voilà. Et j'ai des marges, on va dire, par rapport à si je me mets sur un CPU standard, je suis capable d'avoir le temps réel. Donc ça, c'est pour notre problème, c'est quand même une solution qui est très très intéressante. Alors, j'ai quand même décidé de vous faire une petite ouverture sur d'autres choses, parce que moi, il y a un sujet qui m'a beaucoup intéressé, c'est de me dire, mais finalement, ok, dans ce cas-là, je suis quand même capable de mettre un bien inductif qui est très fort dans mon modèle, avec mon histoire de circuit électrique équivalent, mais on a peut-être des cas dans lesquels ce n'est pas forcément si évident. Et ça, c'est le premier aspect. Et puis, le deuxième aspect, c'est est-ce que je peux aussi faire des modèles dans lesquels je réduis encore les nombres de paramètres ? Voilà. Donc ça, c'était les deux sujets, en fait, les deux questions... sur lesquels on veut répondre. Et donc il y a un sujet qui est très intéressant, c'est comment je peux représenter notamment mon passé avec des signatures. Et là, il y a des gens à Oxford qui sont un peu spécialisés là-dedans, les signatures, donc avec lesquels on a travaillé. Alors je vais expliquer ce que c'est que le principe d'une équation différentielle contrôlée, très très simplement, et comment ça généralise en fait une équation différentielle ordinaire neuronale. Donc le principe de l'équation différentielle ordinaire neuronale, c'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure, il est ici. Et en fait, la différence, c'est que plutôt que d'intégrer par rapport au temps, vous allez intégrer pour un chemin. C'est ça le principe. Donc là, par exemple, vous pouvez définir ce que vous voulez dans votre chemin. Ici, j'ai pris le temps et puis la commande, par exemple. Mais c'est un exemple, hein, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Et puis, vous allez vous retrouver avec une intégrale de Riemann-Stieltjes, dans laquelle, en fait, ici, vous intégrez par rapport à votre chemin. Donc, ça généralise, on va dire, le principe de la neurale 2 que vous avez ici. En fait, c'est même équivalent, en quelque sorte, parce que finalement, vous pouvez toujours écrire que dxs, c'est dxs sur dt fois dt, entre guillemets, et puis vous pouvez retomber sur une équation comme ça, et c'est comme ça que vous allez l'intégrer en pratique. Mais c'est conceptuellement intéressant pour plein de raisons. Et il y a une architecture qui est particulièrement intéressante pour les systèmes physiques, c'est le fait de dire, je fais une linéaire CDE, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir un champ, en fait, qui est un réseau de neurones, j'ai simplement que je suis linéaire en l'état. Alors pourquoi c'est intéressant, et même dans notre problème, parce qu'en fait en faisant ça, comme vous avez multiplié par un chemin, vous pouvez quand même incorporer de la non-linéarité, et vous pouvez incorporer de la non-linéarité tout en ayant un champ qui est linéaire en l'état. Et ça, c'est très intéressant. Enfin, moi je trouve en tout cas. Donc voilà. Alors ça, du coup, comment vous l'intégrez ? Ben, du coup, si vous réécrivez votre équation, forcément votre A, bah, c'est un tenseur d'ordre 3, hein, parce que quand vous êtes sur le temps, bah, si vous êtes un système linéaire, vous avez une matrice d'ordre 2, mais là vous avez plusieurs canaux sur votre chemin, donc vous êtes pour l'instant un tenseur d'ordre 3. Vous pouvez calculer les incréments de votre chemin, par exemple en faisant une interpolation linéaire, d'accord. Et si vous faites un Euulère, bah, plutôt que d'avoir des delta t, vous allez avoir des deltas d'incrément sur l'ensemble des canaux de votre chemin. Vous pouvez faire du testing aussi, de la transformée bilinéaire. Mais si vous faites ça, en fait, ben, donc ça marche aussi. Par contre, le point, c'est que votre flow, il dépend, à chaque instant, il varie. Donc, il faut recalculer à chaque fois comment vous passez du discret au continu à chaque instant avec ce type d'approche. Donc ça, c'est une délimitation, on va dire. Et puis, vous pouvez aussi, comme vous êtes linéaire en l'état, c'est aussi très intéressant parce que vous pouvez calculer votre intégration via des exponentielles de matrice. Et donc ça, vous pouvez le vectoriser. Donc vous pouvez calculer toutes vos exponentielles de matrice. Et puis, non seulement vous pouvez vectoriser le calcul des exponentielles de matrice, mais en plus, quand vous prenez votre état, l'état à l'instant n, c'est la multiplication des différentes exponentielles de matrice fois l'état à l'instant 0. Et donc vous pouvez faire un associatif scan et vous pouvez le paralléliser. Donc ça, c'est aussi très intéressant pour avoir une méthode précise, et donc c'est très spécifique à ce type d'approche. Par contre, ça coûte cher en mémoire. Donc, vous avez à chaque fois à faire, là, vous avez un compromis à faire entre votre coût de calcul, la consommation de mémoire et la précision. Mais avec ce type de structure, vous avez quand même pas mal de liberté. Alors, la question, alors, sur ces sujets-là, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, hein, parce qu'il n'y a pas encore d'article, on va dire, de publié dans ce domaine-là. Mais, sur ce que je vais présenter spécifiquement. Mais la question, c'est ce qu'on peut prédire avec sans un bien inductif fort avec ce type d'approche, linéaire C2. Ben, en fait, oui, j'ai envie de dire. Et justement, là, je suis dans une zone où j'ai une forte non-linéarité, hein, je suis dans la zone non-linéaire et ça prédit quand même relativement bien. Donc, les résultats préliminaires, ils suggèrent quand même qu'on arrive à prédire assez bien, sachant que dans ce cas-là, il y a une structure, on va dire, dans le A, hein, qui aide aussi les choses. Mais c'est une structure, on va dire, c'est pas une structure comme on a avec les idées qui est très compliquée. Mais avec ce type d'approche, on peut quand même arriver à bien prédire, on va dire, même en domaine non linéaire, notre sortie. Donc c'est une approche qui est très, très, très prometteuse. Alors, dans cette phase un petit peu d'ouverture, là, je voudrais quand même aussi revenir sur un point que j'ai évoqué tout à l'heure. C'est que je disais, on va partir de conditions initiales fixes, parce qu'au début, quand je veux démarrer, l'intégration de mon ODE, je ne sais pas quel est mon état. Donc je prends un état statique et puis je fais un mapping entre mon état statique et puis mon état que j'apprends. Donc ça, c'était la méthode la plus simple. Mais la question, c'est est-ce qu'on peut faire un encodeur dynamique, en fait, qui va me prédire directement mon état, et donc pour éviter cette contrainte. Alors, ça, c'est la première question qu'on se pose. Deuxième question qu'on se pose, c'est, ok, la deuxième remarque qu'on se fait, c'est que qu'en fait, dans le modèle, ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, mais c'est que finalement, dans mon décodeur, mon encodeur et ma dynamique, mon encodeur et mon décodeur, ils prennent plus de poids, plus de paramètres que ma dynamique. Bon. Alors, peut-être qu'on pourrait optimiser pour essayer de réduire ce nombre de paramètres, mais en pratique, dans la manière dont on l'a implémenté, c'est le cas. Et une des questions, c'est de se dire, ok, on a essayé de structurer la dynamique pour améliorer le modèle et réduire le nombre de paramètres, mais est-ce qu'on ne peut pas structurer l'encodeur? C'était un petit peu ça l'une des questions. Et donc, l'idée, est-ce qu'on ne peut pas mettre de la structure directement dans l'encodeur? Et pour ça, pour les séries temporelles, il y a des gens qui ont travaillé sur les signatures. Donc, les signatures, en fait, ce sont des intégrales itérées. Hein, donc, ça vit dans l'algèbre tensorielle. Hein, donc, on va composer, donc on a différents termes. Donc, ça permet d'avoir une représentation assez riche du passé, en fait, hein, ces intégrales itérées. Donc, on peut le voir. Et donc, bien sûr, en pratique, on va tronquer. Hein, donc, on va prendre une profondeur n. Donc, c'est-à-dire qu'on va. La taille du mot, donc le petit n, on va le borner à un grand n à un moment donné. Parce que sinon, on peut pas le calculer. Et ça représente très bien le signal, et il y a des interprétations géométriques de ça. Donc à l'ordre 1 et l'ordre 2, bon, on peut assez bien le visualiser, hein, c'est des aires et des distances comme ça. Sur des profondeurs plus profondes, enfin sur des voilà plus importantes, c'est un peu plus difficile à visualiser. Mais globalement, on peut voir les signatures comme une autre représentation du chemin dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, les signatures, ça vérifie une propriété qui est très intéressante. En fait, c'est le fait que ça suit une équation différentielle contrôlée, comme je vous l'ai introduite tout à l'heure. Donc ça, c'est intéressant. Et en plus, ça fournit une information riche sur le passé et quand même qui a filtré le bruit parce qu'on a fait des intégrales. Donc ça, c'est intéressant. Par contre, le problème, c'est que si j'écris mon équation différentielle contrôlée, ici, c'est juste qu'on est on est sur des tenseurs, hein, mais ça reste une équation contrôlée. En fait, on devient instable pour des chemins, par exemple, monotones, typiquement. Parce qu'en fait, on va intégrer sur des intervalles de plus en plus grand, et en intégrant sur des intervalles de plus en plus grand, ben forcément, on accumule. Donc, en pratique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer ça sur des horizons de temps qui sont finis, donc avec des fenêtres glissantes. Et en fait, quand on fait ça, ben, on réduit l'intervalle sur lequel on récupère l'information, on a un traitement qui est uniforme de l'information, parce qu'on travaille sur une fenêtre, et puis, on exprime la dynamique que sur une profondeur qui est limitée. Donc, on n'est pas capable de prendre en compte des dynamiques très lentes, par exemple. Donc, la question, c'est est-ce qu'on peut faire un encodeur dynamique qui peut vraiment prendre en compte un passé qui est beaucoup plus long et avec une mémoire beaucoup plus riche sur la dynamique. Et donc ça, en fait, on a introduit un nouveau type de signature avec mes collègues d'Oxford, dans lequel, en fait, on prend en compte une notion de contexte temporel. Donc on s'est basé sur quelque chose qui a été fait à Polytechnique, sur lequel ils faisaient des signatures amorties, donc avec un opérateur, on va dire, diagonal. Mais nous, on a généralisé ça pour vraiment créer des mémoires, on va dire, en définissant un opérateur linéaire qui est structuré. Donc en fait, le principe, c'est qu'on reprend la signature qu'on avait avant, mais ici, on va introduire ce terme-là, en fait, qui est... Donc θ, c'est une cloque, hein, donc ça peut être le temps. C'est juste c'est une fonction monotone du temps, en fait, on va dire ça comme ça. Et on a introduit ce terme-là qui va permettre d'introduire soit un amortissement, soit des phénomènes oscillatoires, par exemple, suivant les valeurs propres que je vais avoir dans le A, et puis avec une transformation de chemin pour généraliser l'expression de la signature. Donc en fait, ça, on peut avoir une équation différentielle contrôlée, en fait, qui est, ça suit aussi une équation différentielle contrôlée, mais par rapport à avant, on a introduit ce terme-là. Et en fait, ce qui est très intéressant avec la structure qu'on a introduit là, c'est qu'en fait, ce terme-là, il va suivre une structure, en fait, qui est celle-là, en fait. Donc ça se démontre assez facilement. Mais voilà, et donc, si je prends une signature à l'ordre n, qui va avoir beaucoup de composantes pour décrire mon état, je vais pouvoir décrire mon équation de ma signature avec une matrice A, en fait, qui est de taille uniquement la dimension de mon chemin. Donc là, en fait, j'ai un opérateur structuré, de mémoire structurée, qui est défini par très peu de paramètres et qui me permet d'avoir une représentation très riche de mon passé. Voilà. Donc pour résumer, on a appelé ça le WS. Ça permet de définir une dynamique structurée avec une mémoire causale qui permet d'avoir des représentations très riches du passé avec très peu de paramètres. Donc ça, en disant, je prends mon encodeur, je l'applique sur mes données. Et ensuite j'apprends indépendamment, donc ça me donne une suite d'états, et j'apprends la dynamique à partir de ces états indépendamment, donc ça donne, donc là on a très peu de paramètres, on a divisé par 100 par rapport à ce qu'on avait avant, parce que là on parle de quelques paramètres, on a des résultats qui sont pas mal, donc c'est à dire qu'avec ce type d'approche on arrive quand même à exprimer relativement bien ce qu'on a dans le passé. Donc ça veut dire qu'en fait avec un nombre très peu de paramètres et en structurant bien l'encodeur, on peut aussi avoir des choses qui sont très intéressantes plutôt que d'apprendre un encodeur avec beaucoup de paramètres. Donc on a cette possibilité de créer des encodeurs qui sont capables de définir un contexte qui est performant pour décrire notre dynamique. Voilà, donc c'est ça que je voulais vous sur quoi je voulais vous ouvrir. Donc si je résume, le fait d'utiliser une CDE linéaire, comme j'ai présenté tout à l'heure, donc avec une structure, ça permet de réduire le nombre de paramètres et la complexité, donc d'améliorer la convergence. Dans les neural ODE CDE qu'on a présenté, en fait, on avait beaucoup de paramètres dans l'encodeur et dans le décodeur. Donc ça, c'était pas grave en soi, mais on avait quand même beaucoup de paramètres. Et donc avec ce type d'approche, on peut avoir un encodeur structuré dans lequel on a réduit drastiquement le nombre de paramètres, et qui permettent d'avoir une mémoire très riche du passé pour décrire la dynamique. Voilà. Déjà un des premiers points, c'est qu'on a balayé toute une série de types de modèles. On parle de modèles, ce qu'on veut, c'est pas que des modèles qui les prédisent, c'est des modèles dans lesquels on peut avoir confiance. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'en allant vers les méthodes de la droite, on peut garantir des contraintes de stabilité dans les modèles, et ça c'est extrêmement intéressant, et atteindre le temps réel. Donc ça veut dire qu'en fait, même les méthodes, on va dire plus de type séquence to séquence, si on arrive à mettre quelques biais pour renforcer la stabilité dedans, et avec une structure qui est adaptée, on arrive à avoir des choses sur lesquelles on peut faire du temps réel avec de la robustesse. Voilà. Donc pour conclure, le message finalement c'est quoi? C'est que si on prend des modèles qui sont très fidèles à la physique tout seul, c'est pas suffisant parce qu'on peut pas s'en servir pour faire du contrôle. Si on prend des modèles qui sont non structurés et basés que sur des données, si on veut être précis, ça devient compliqué. Il faut beaucoup de paramètres et en plus on ne sait pas garantir la stabilité. Et puis avec la structure, on peut trouver un compromis là-dedans, dans lequel en fait on introduit la structure au bon endroit, que ce soit dans la dynamique, que ce soit dans l'encodeur, ça permet d'avoir des modèles qui sont compacts, dans lesquels on peut avoir des garanties de stabilité et qu'on peut implémenter en temps réel. Et donc, je vais conclure par une phrase peut-être un peu polémique, mais c'est un peu le sens du message quand même, c'est que finalement, si vous voulez reproduire par des paramètres la structure, ça vous coûte très cher en paramètres, ça vous coûte très cher globalement, Et donc, quelque part, la structure, elle importe plus que les paramètres. Je vous remercie.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.